eu l'occasion pendant mon arrêt maladie, qui était en parallèle avec le confinement, de lire beaucoup plus la parole de Dieu. Je pense que certains d'entre vous ont sûrement vécu ça aussi. Tout simplement parce que j'avais plus de temps, puis aussi parce que, avec ce qui m'arrivait, j'avais besoin d'entendre la parole de Dieu, d'écouter mon Sauveur, mon Seigneur, et de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir. Et puis finalement, j'ai remarqué qu'en lisant longuement la parole de Dieu, cela nous permet de la découvrir de manière beaucoup plus approfondie, avec une vision beaucoup plus large des événements. Et quand on lit un livre dans son entier, on découvre des éléments, des leçons, des recommandations, la vision de Dieu que nous ne pouvons pas véritablement appréhender quand nous lisons que quelques versets par jour, si nous lisons la Bible tous les jours. Alors, je vous invite aujourd'hui à passer un petit moment avec un personnage de la parole de Dieu, des personnages de la parole de Dieu. On va les trouver dans le livre de Daniel. Alors, le livre de Daniel, c'est un livre qui raconte l'histoire de Juifs fidèles qui vivent en exil, et ce livre montre aussi, pendant ces 12 chapitres, que l'Éternel exerce le contrôle sur la terre et sur le ciel. Et malgré l'impression que peut donner certains événements, comme la déportation de ces Juifs, première déportation, Dieu est au contrôle. Et on peut aussi se poser la question, avec ce que vit notre monde, avec le Covid-19, nous avons la conviction, j'ai la conviction, en tout cas, que Dieu est souverain. Et que ce soit à l'époque de Daniel, avec cette déportation des Juifs, ou que ce soit à notre époque, pendant cette pandémie que nous vivons, Dieu contrôle la situation. Et c'est cette conviction, cette assurance que j'ai eue en lisant le livre de Daniel. Alors, la particularité, bien sûr, du livre de Daniel, pour ceux qui connaissent bien ce livre, c'est que nous voyons le plan de Dieu jusqu'à la fin des temps. Alors, rassurez-vous, nous n'allons pas étudier cet aspect des choses parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour faire cela, et ce n'est pas le lieu en une vingtaine de minutes, 30 minutes, de faire cela, mais vraiment, je vous invite à le faire. Pour le moment, découvrons simplement le livre de Daniel sans comprendre tout, mais tout simplement en découvrant le plan de Dieu. Et puis, dans un second temps, je vous invite à prendre du temps pour étudier ce texte, en vous aidant, par exemple, de commentaires bibliques. Je vous en ai ramené un ce matin qui a été écrit par Daniel Arnold, que nous connaissons. Dieu visite aussi les orgueilleux, une approche originale du livre de Daniel. Et c'est une grâce de Dieu de savoir que des hommes et des femmes ont le don d'écrire de tels bouquins pour nous aider à la compréhension du texte biblique. Alors, il est lourd, il y a beaucoup de pages, mais il est très facile à lire. Il est très facile à lire, il est accessible à tous. Et en tout cas, si vous le lisez ou si vous étudiez Daniel, n'hésitez pas à aller vers le pasteur, les anciens, pour vous aider, ou d'autres personnes qui sont capables de vous accompagner. Mais vraiment, je vous invite à faire ce travail. Alors, on va entrer dans la première phase ce matin, c'est-à-dire de lire tout simplement le livre de Daniel ensemble. Alors, je vous rassure tout de suite, comme je vous l'ai dit, on ne va pas lire les 12 chapitres, mais quelques événements de la première partie, et voir ce que très vite on peut retirer de notre lecture. Et ça, tout le monde peut le faire. Lire en continu un texte et dire qu'est-ce qu'il veut dire pour moi. Alors, nous allons commencer par le commencement, par le chapitre 1. Donc, je vous invite à lire, ouvrir vos Bibles, si vous en avez, ou écouter la lecture. Je vais lire dans la version du Semeur. La troisième année du règne de Jéhoiakim, roi de Juda, Nabucodonosor, ou Nebuchadnezzar selon les versions, roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Jéhoiakim et lui livra une partie des objets du temple. Nabucodonosor les fit transporter en Babylone dans le temple de son Dieu et il déposa ces objets dans la salle du trésor de son Dieu. Alors, il doit faire 25 degrés de plus que dans la salle, sur l'estrade. Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher de l'eau ? Je suis desséché. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites, de lignée royale et de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être capables d'apprendre la science et de bonnes constitutions pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont ils buvaient lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service du roi. Et donc parmi les Judéens qui furent sélectionnés se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belsazar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abednego. Et au verset 8, déjà un temps fort. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Il veut rester fidèle à Dieu. Et Dieu, verset 9, lui accorda la faveur du chef du personnel. Alors ce chef du personnel commence quand même à s'inquiéter parce qu'il dit « Ok, vous ne mangez pas les mets du roi, mais ça, si jamais vous dépérissez, je risque ma peau et surtout ma tête. » On est dans un royaume où la tête des serviteurs et même des conseillers et même des ministres ne tient qu'à un fil. Et on voit, quand vous lirez le livre de Daniel, qu'à plein d'endroits, des hommes et des femmes risquent leur peau pour pas grand-chose. Là, il risque sa tête si jamais le roi voit les jeunes gens dépérir. L'exécution dans ce pays, c'était le démembrement. Et quand quelqu'un était exécuté, il était démembré, sa famille était exécutée dans son ensemble, et les maisons qui lui appartenaient étaient brûlées. Donc on comprend le chef du personnel qui a un peu peur quand même. Alors Daniel lui dit « Non, t'inquiète pas. On va faire un essai pendant 10 jours. On va manger que des légumes et des fruits. Et au bout de 10 jours, on fait le point. » Et au verset 15, au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils étaient en meilleure forme physique que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dès lors, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur étaient destinés et les fit servir et leur fit servir des légumes. Et Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. Et de plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Le roi s'entretint avec eux et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et c'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Et chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Ces hommes de Dieu déjà nous donne une leçon merveilleuse de consécration, de fidélité à Dieu malgré le contexte. Et on voit tout de suite que Dieu va les bénir et les utiliser pour sa gloire. Nous arrivons au chapitre 2 où le roi fait un rêve qui les trouble au point qu'il en perd le sommeil. Alors verset 2, il ordonne de convoquer les mages, les magiciens, les sorciers, les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit, « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Les astrologues dirent au roi en langue araméenne, « Que le roi vive éternellement, raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'explication, l'interprétation. » Le roi répondit aux astrologues, « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et de son interprétation, vous serez mis en pièces. » Et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me les révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. » On a l'impression que le roi a complètement oublié son rêve. Il est perturbé, il a fait un rêve, et il s'en rappelle plus. Il sait que ce rêve, il est super important, mais il s'en rappelle plus. Ou alors, il veut mettre au défi ses serviteurs de dire, voilà, on va voir si vous êtes vraiment des devins, des astrologues, etc. Dites-moi quel rêve j'ai eu. Un truc de fou, quoi. Et comme vous voyez, leur tête ne tient qu'à un fil. Alors les mages, les astrologues, ils essayent de gagner du temps en disant, mais c'est pas possible ça, on peut pas faire ça. Dis-nous le rêve que tu as fait et on va te donner l'explication. Mais on ne peut pas découvrir le rêve que tu as fait. Et là-dessus, le roi s'irrita, verset 12, et entra dans une violente colère. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Et lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Alors, Daniel, il va se renseigner et se dire, mais pourquoi il veut nous mettre à mort? Alors on lui explique ce qui se passe. Alors Daniel se rend auprès du roi, verset 16, et le prie de lui accorder un délai, en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentre chez lui et en informe ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que dans sa grâce, il leur révèle ce secret afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Que fait Daniel dans un premier temps? Il n'a pas du tout la même attitude que les astrologues. Il n'essaye pas de gagner du temps. Il rentre chez lui, il retrouve ses compagnons, et que va-t-il faire? Tous vont faire la même chose, prier Dieu. Supplier Dieu de lui révéler le rêve et sa signification. Et au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors que fait Daniel? Il ne se précipite pas vers le roi en disant « ça y est, j'ai la solution » ou il ne dit pas « ça y est, j'ai trouvé ». Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Alors celui-ci, Daniel, bénit le Dieu des cieux. Il dit « béni soit Dieu » dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Verset 22, il dévoile des choses profondes et secrètes, il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, tu nous as révélé ce que le roi demande. Finalement, Daniel dit tout simplement, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Combien de fois je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait à travers moi? Est-ce que je n'ai pas tendance parfois à être fier de ce que j'ai fait, en oubliant même parfois que c'est Dieu qui a agi à travers moi? Alors Daniel va voir le roi et lui dit « Le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun astrologue n'est capable de lui faire connaître, mais il témoigne. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi Nabucodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Et il lui révèle le rêve de cette statue. Alors, on ne va pas le lire aujourd'hui parce que c'est long, mais c'est une vision extraordinaire. Et Daniel va expliquer au roi son rêve et lui montrer le plan de Dieu jusqu'à la fin des temps. Alors il y a un verset qui a bien sûr retenu mon attention, c'est le verset 44. Il explique le rêve et il dit au verset 44, « À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. » Je ne pense pas que Daniel ait pu réaliser véritablement ce qu'il était en train de dire. Mais encore une fois, on voit que Dieu est souverain et il est en train de préparer la suite jusqu'à la fin des temps. Il est aux commandes et il accomplit son plan. Alors nous sommes des privilégiés parce que contrairement à Daniel, nous savons ce qui est déjà arrivé. Et nous savons comment Dieu, par son Fils Jésus-Christ, nous a permis d'avoir cette espérance qu'un jour, nous serons pour l'éternité dans ce fameux royaume dont il parle là, dans ce verset 44. Et là, le roi, il est impressionné. Impressionné. Et au verset 47, il dit, « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux. Le souverain des rois est celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. » Et le roi élève Daniel à une haute position et lui donne de nombreux et riches présents. Et voilà que Daniel est le gouverneur de toute la province de Babylone. Et le roi confie aussi l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel lui-même demeura à la cour du roi. Et là, Daniel nous montre que malgré sa foi, malgré sa consécration à Dieu, sa fidélité, il reste et demeure un personnage central de Babylone. Alors ça me fait penser à ce passage que nous lisons dans Jérémie au chapitre 29, toujours dans la même période. On lit ce texte que nous connaissons bien. « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. » Construisez des maisons, installez-vous, plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos fils en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté et priez en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. Et au verset 11, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors c'est bienfaisant de savoir que c'est le plan de Dieu de nous avoir laissés dans ce monde, non pour nous morfondre en attendant son retour, mais pour être des acteurs dans notre société, comme Daniel l'a été, tout en ne faisant jamais de concessions avec notre monde, en restant fidèle à notre Dieu, à notre Sauveur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et nous passons au chapitre 3. Le roi Nabucodonosor fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Puis il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait fait dresser. Un héros proclamant à voix forte, « À vous, hommes de tous les peuples, nations et langues, on vous fait savoir qu'au moment où on vous entendrait, le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabucodonosor a fait ériger, et vous l'adorerez. Alors le peuple s'agenouille et adore cette statue, certainement pas parce qu'ils croient à quelque chose de cette statue, mais parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de mourir. Et puis, nous avons nos trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui disent non, nous on n'adorera pas cette statue. Hors de question. Alors, ils continuent à adorer Dieu, le Dieu des cieux, et puis ils sont dénoncés. Et des hommes des personnes de l'entourage du roi disent au roi, il y a des hommes de Juda auxquels tu as conflé l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi au roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabucodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Il va dire, maintenant vous allez vous agenouiller devant ma statue. Et au verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Ô Nabucodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, au roi qui nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, au roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Ils sont menacés d'être jetés dans la fournaise ardente. Quel courage! Quelle leçon de foi nous donnent nos frères! Quelle est cette leçon de fidélité nous donnent ces trois hommes? Et cela me fait penser à ce verset. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Sommes-nous en toute occasion fidèles à Dieu? Sommes-nous en toute occasion capables de prendre position, comme ces trois hommes ont pris position au prix de leur vie? Voyez, juste en lisant les textes, le Seigneur doit travailler mon cœur. Il a travaillé mon cœur en préparant ce message. Et il me dit, mon Dieu me dit, es-tu vraiment toujours fidèle? Rappelle-toi à quel endroit, à quel moment, tu n'as pas eu le courage clairement de me défendre et de proclamer mon nom. Oui, réfléchissons à l'attitude de ces trois personnes qui étaient au bord de leur mort, là. Hein. Ils ne savent pas s'ils vont être sauvés. Mais ce qu'ils savent, c'est que Dieu est avec eux. Il est tout-puissant et qu'ils accepteront la volonté de Dieu. Si tu veux nous délivrer, amen. Mais si tu ne le fais pas, amen. Quelle force, quelle foi. C'est ce que disent nos trois amis. Et parfois, le plan de Dieu est difficilement compréhensible. Pourquoi il est fait passer par cette épreuve terrible? Et parfois, il est difficilement compréhensible pour vous, pour moi. Mais quelle grâce de savoir que Dieu est souverain et qu'il fera pour nous ce qui est le meilleur. Quand j'avais 24 ans, j'ai perdu mon père d'une grave maladie. Et j'ai dit à Dieu à ce moment-là, « Dieu, non, c'est beaucoup trop tôt. J'ai encore besoin de lui. Je n'ai pas compris à ce moment-là ce qui se passait. Pourquoi il avait enlevé mon père alors que j'avais tant de choses à vivre avec lui ?» Et puis plus tard, des années après, j'ai compris par le témoignage de beaucoup de personnes que Dieu avait utilisé papa pendant les derniers mois qui lui restait à vivre pour fortifier ses frères et sœurs en Christ et pour les préparer à un projet d'implantation d'église qui est encore aujourd'hui une bénédiction. Et ce temps qu'il a passé avec mes frères et sœurs en Christ a été enregistré sur une cassette. Et sur cette cassette, on voit que mon père est inspiré. Ah, c'est ce qu'on m'a dit, parce que moi, je n'arrive pas à l'écouter. Tant d'années après, mais je n'y arrive pas. Béatrice l'a écouté, mes enfants l'ont écouté, et ils disent, waouh, il était déjà tellement inspiré ce jour-là, il a dit des choses tellement extraordinaires, et mes amis me disent, moi, ce jour-là, il est marqué là pour toute notre vie, et ces paroles-là qui venaient de Dieu, par ton Père, qui nous ont permis d'avancer et de créer, d'implanter cette église par la grâce de Dieu. Alors oui, j'aurais préféré qu'il se fasse autrement, qu'il s'y prenne autrement et qu'il me laisse mon père. Mais j'ai accepté que Dieu est souverain et que même s'il nous a tellement manqué après, qu'il a tellement manqué à ma maman et à nous, mais voilà, Dieu l'a utilisé, il avait besoin de lui pour une mission très particulière. Alors ils sont poussés dans la fournaise. Et là, bon, vous connaissez l'histoire. Ils sont dans la fournaise et ils ne brûlent pas. Ils sont dans la fournaise et leurs vêtements sont intacts, leurs cheveux sont là. Et ils discutent. Et ils discutent avec une quatrième personne. Ils sont quatre dans la fournaise. Et là, Nabucodonosor dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est qui cette quatrième personne? Et puis finalement, il les fait sortir de la fournaise, il comprend qu'ils ne vont pas mourir. Et il dit au verset 28, « Loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. » Waouh. Je suis sûr qu'on a eu des moments où des anges étaient avec nous, mais que on ne l'a pas su. Je suis sûr que Dieu nous accompagne. J'ai acheté là il y a une semaine un livre que j'avais lu il y a très longtemps et qui était épuisé, que j'ai retrouvé d'occasion. C'était un livre de Billy Graham qui s'appelle « Les anges, agents secrets de Dieu ». Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. C'est un livre formidable. C'est un livre formidable parce qu'il nous montre comment les anges sont au service de Dieu et comment ils peuvent nous aider, envoyés par Dieu pour différentes situations. Et voilà Daniel, le livre de Daniel, c'est des événements comme ça où on voit la consécration de ces hommes, où on voit l'intervention de Dieu et où on voit une société idolâtre épouvantable. Épouvantable. Et ils doivent vivre dans cette société, ils doivent craindre le pire, peut-être la mort, mais ils ont décidé de suivre Dieu jusqu'au bout. Alors j'aime beaucoup ce livre parce qu'il nous montre comment nous pouvons vivre dans notre société. Il nous montre que, quelle que soit la situation, je dois être fidèle à Jésus-Christ. Et pour conclure, je voudrais lire un autre texte de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 17, au verset 13. « À présent, je retourne auprès de toi. » C'est Jésus qui parle à son Père. « Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Et nous sommes ici à quelques heures avant que notre Seigneur se sacrifie sur la croix. Il prie son Père. Comme Daniel, nous n'appartenons pas à ce monde. Et comme Daniel, nous avons une relation privilégiée avec Dieu si nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Comme Daniel, Dieu ne nous a pas retirés du monde. Et comme Daniel, il nous demande de le servir là où nous sommes. Et comme Daniel, il veut que nous fassions les bons choix. Il veut que nous soyons fidèles en toutes choses. Comme à Daniel, il nous dit, gardez-vous des idoles de ce monde. De Corinthiens, chapitre 6, verset 14, ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant et l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Comme Daniel, notre Seigneur nous demande de faire les bons choix qui lui rendent gloire. Comme Daniel, notre Dieu nous dit de nous garder des idoles de ce monde. Certes, nous n'avons pas à nous prosterner devant des idoles en bronze, en ferraille ou en or, mais nous avons tous à nous garder. Je me souviens d'un voyage que j'avais fait en Thaïlande avec Béatrice et d'autres amis, et on avait traversé la Thaïlande en bus, et c'était très très impressionnant de voir ces fameuses idoles. Alors en Inde, en Thaïlande, c'est le bouddhisme. Il y avait des idoles qui étaient aussi hautes que la statue qu'avait fait Nebuchadnezzar, des statues mais gigantesques en or, qui faisaient plus de 30 mètres de haut, qui faisaient 15 mètres de large, et couverts d'or. Et des milliers de personnes qui étaient au pied de ces statues et qui adoraient ces statues. Alors oui, ça existe encore. Mais nous avons à nous garder, à nous débarrasser de tout ce qui nuit à notre relation avec Dieu. Tellement de choses peuvent devenir des idoles ou des obstacles à notre relation avec Dieu. Mon smartphone, par exemple, ma télévision, le sport, les loisirs, la nourriture, plein d'autres choses qui pourraient devenir des obstacles dans ma relation avec Dieu. Alors oui, tout cela est bon pour moi, à condition que cela ne mette pas en péril la relation que j'ai avec mon Seigneur. Alors je voudrais vous inviter à lire le livre de Daniel comme ça, lisant en continu, dans cet état d'esprit, de dire comment cet homme a pu avoir une relation telle avec Dieu dans ce contexte difficile, dangereux, voire mortel, où il vivait avec ses amis. Et malgré sa haute responsabilité dans la société de Babylone, Daniel a toujours fait des choix pour ne pas compromettre sa relation avec Dieu. Alors que chacun s'examine soi-même et qu'il confesse ce qui, dans sa vie, l'éloigne d'une relation juste et saine avec notre Seigneur. Que nous puissions vraiment être des serviteurs fidèles dans ce monde en difficulté, dans ce monde qui n'aime pas toujours les chrétiens, dans ce monde qui nous a pris en haine, et nous l'avons vu pendant la période du Covid-19, et nous avons vu comment nos frères et sœurs de Mulhouse ont été traités, menacés de mort. Et pour terminer, louons notre Dieu, parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous, parce qu'il est aux commandes, et parce que nous savons que ce monde n'est pas notre monde. Et que même si nous devons, comme Daniel, vivre à certains égards des hostilités, nous savons aussi que Jésus est remonté au ciel pour nous préparer une place dans son royaume, afin que là où il est, nous y soyons aussi pour l'éternité. Amen.